Bienvenue, chers auditeurs, sur les voies de la franchise. La franchise et le commerce associé sont au cœur de notre quotidien. C'est pourquoi, sur les voies de la franchise, je donne la parole à tous les acteurs de ces réseaux d'entrepreneurs indépendants qui ont un jour décidé de créer leur business. On y parle entrepreneuriat, transmission, entraide, marketing, développement commercial. Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Claire.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Ruel-Maigrelis, la première master franchisée à venir échanger sur ce podcast. Nous allons donc découvrir ce qu'il se cache derrière ce terme et surtout parler de la franchise Hélène Doron English, qui propose une méthode originale d'apprentissage de l'anglais pour les enfants de 3 mois à 18 ans. Vous voulez bien nous en parler un petit peu ?
Oui, bien sûr. Bonjour Claire. Donc Hélène Doron English est un groupe international qui a été créé en 1985 par une linguiste britannique qui a donné son nom à sa méthode et s'appelle Hélène Doron. Elle est partie du principe qu'une langue devait s'apprendre de manière naturelle, comme on apprend sa propre langue maternelle. Donc à savoir une immersion quotidienne, une immersion en cours qui est complétée par une immersion quotidienne à la maison. Un aspect ludique, donc des cours où les enfants n'ont pas l'impression d'apprendre mais sont focalisés sur le jeu, l'aspect agréable de la langue. L'éducation positive pour valoriser les enfants, leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et elle a donc créé cette méthode en la testant d'abord sur les amis de sa fille, en créant ses premiers outils pédagogiques. Ensuite, le succès a été très rapide. Elle a eu de plus en plus d'enfants inscrits. Elle a commencé à former des professeurs donc dans son pays, le pays où elle était implantée, qui est Israël. Et dans les années 90, elle a commencé à avoir des demandes d'autres pays étrangers pour implanter la méthode. Et comment implanter quelque chose qui est assez artisanal dans un pays? Comment l'implanter au niveau national? Comment développer cette méthode? Elle a choisi, au début sans le savoir, les réseaux de franchise, le modèle de franchise, en nommant dans les 3-4 premiers pays où elle s'est implantée, un ambassadeur qui s'est appelé un master franchisé dans le jargon technique de la franchise et qui était en charge de tester le business model sur le marché national, puis ensuite de développer le réseau de franchise. Donc un master franchisé, c'est quelqu'un qui va introduire sur sa région un concept de franchise, qui va le tester, qui va ouvrir un point de vente ou un centre pilote, puis qui ensuite, au bout de 1, 2 ou 3 ans, va le dupliquer sous forme de franchise.
D'accord, donc vous avez toute la France.
Donc moi j'ai toute la France, c'est un sacré challenge.
Ouais.
Nous sommes arrivés fin 2016 avec l'ouverture d'un premier pilote à Paris, dans le 6e arrondissement. Et le business model a été validé assez rapidement. On a eu beaucoup de succès au niveau local et j'ai été rapidement approchée par des candidats qui avaient envie de nous rejoindre grâce à la qualité pédagogique et puis le modèle et le changement de vie que ça impliquait.
D'accord. Mais vous n'avez pas toujours été dans l'enseignement de l'anglais ?
Absolument pas. Donc, je suis diplômée d'une école d'ingénieurs de l'armement qui s'appelle l'ENSTA. J'ai eu une première expérience d'entrepreneuriat en Turquie au tout début de ma vie professionnelle, dès que je suis sortie de mes études. Je suis ensuite rentrée donc en France. J'ai rejoint un groupe d'ingénierie qui était spécialisé dans la pétrochimie et les mines. Donc j'ai toujours travaillé à l'international, dans un milieu international, beaucoup de déplacements et avec des missions qui étaient passionnantes. Mais donc alors, très différente de l'éducation.
Oui, et comment on passe dans la pétrochimie au master franchise Hélène Doron English?
Grâce à ses enfants, ouais. Tout simplement. Donc j'ai 3 enfants qui aujourd'hui ont 7 ans, 12 ans et 14 ans. Et en 2015, je cherchais des cours d'anglais pour eux, des cours d'anglais de grande qualité, à des horaires qui me convenaient. Et je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied, ni dans mon quartier, ni en allant un petit peu plus loin à Paris. Et j'ai donc fait une recherche tout simplement sur Internet, une recherche de cours d'anglais ludiques qui respectaient le processus naturel d'apprentissage. Et je suis tombée sur helenderon.com.
D'accord.
Voilà, donc j'ai envoyé un email au début en demandant s'ils étaient implantés en France, où était leur centre, leur professeur. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à voyager en Europe, à la découverte de la méthode et de différentes franchises.
D'accord.
En Espagne, en Allemagne, pour finalement terminer en Israël et rencontrer helenderon et engager des processus de négociation pour implanter le modèle en France.
D'accord. Et donc, ça vous a mis combien de temps? Ça vous continuiez déjà à travailler pendant ce temps-là? Ou
alors,
vous aviez
oui.
pris un congé parental? Ou vous étiez
absolument dans... pas. Non, j'ai travaillé jusqu'au jour de la signature de mon contrat de master franchise.
D'accord.
Donc, je menais les deux en parallèle, plus ma vie de maman.
Oui.
Mais voilà, je suis assez active et j'aime quand les choses bougent et quand mon emploi du temps est très chargé.
D'accord, très bien. Et donc, du coup, les enfants, quand ils sont en cours chez helenderon, c'est tous les jours ou c'est l'immersion est à la maison un peu tous les jours et à quelle fréquence ils viennent en cours chez vous?
Alors, ils viennent en France, ils viennent en cours une fois par semaine.
D'accord.
Pour des cours qui durent entre 45 minutes et 2 heures en fonction de l'âge, puisqu'on accueille des enfants de 3 mois jusqu'à des terminales, 17-18 ans. Ce cours est en immersion complète. On ne passe jamais par le français, on ne traduit jamais, on n'explique jamais en français. On a un matériel pédagogique et technologique qui est très riche et qui nous permet de faire des cours et de nous faire comprendre des élèves sans passer par le français. C'est très très important pour nous cette immersion. Elle est indispensable pour apprendre la langue anglaise. Cette immersion, donc ce cours en immersion est complété par une écoute quotidienne à la maison, passive, de pistes audio qui sont en rapport direct avec le programme que l'enfant est en train de travailler. Donc tous les jours, une vingtaine de minutes, l'enfant doit entendre
de l'anglais.
Le programme qui travaille,
d'accord.
L'anglais mais pas n'importe lequel, le programme qui travaille, lorsqu'il fait autre chose, c'est une écoute passive.
D'accord.
On ne doit pas lui dire de s'asseoir et d'écouter, non. C'est pendant qu'il va prendre son bain, pendant qu'il va dessiner, pendant qu'il va classer des cartes dans un classeur, au moment du repas, sous le petit déjeuner, où les parents courent un peu partout, l'enfant est face à son assiette, donc, ou alors au moment de l'endormissement. Cette écoute quotidienne va permettre à l'enfant d'être plongé dans la langue anglaise, de faire rentrer la langue anglaise dans sa vie quotidienne.
D'accord.
Et l'écoute répétitive des pistes audio de manière passive va leur permettre d'avancer beaucoup plus vite dans l'apprentissage de la langue.
D'accord. Et donc, quand on devient un master franchisé, en fait, est-ce qu'on applique totalement la méthode qui a été développée et testée dans les autres pays, ou est-ce qu'on adapte un petit peu en fonction justement du test sur l'agence pilote?
Alors la méthode, on ne l'adapte pas, absolument pas. La méthode, elle existe dans tous les pays du monde, que vous alliez dans un centre helenderon à Paris, à Lima, à Shanghai ou à Istanbul, vous aurez le même programme,
d'accord.
Le professeur qui aura eu la même formation et les mêmes outils pédagogiques. C'est très important et c'est ce qui permet d'avoir une qualité optimum, une garantie de qualité optimum, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Par contre, ce qui a été adapté suite au test, c'est donc le reste, l'aspect du centre, l'aspect extérieur, la manière de la vendre, la manière de suivre chaque élève de manière individuelle, qui doit être adaptée à la culture du pays.
Alors, quels étaient les éléments qui ont dû être adaptés pour la France? Quelle était la culture de la France qui faisait que c'était peut-être différent de l'Espagne ou d'Israël ou...
Alors, déjà, l'aspect extérieur d'un centre. Ça,
ouais.
ça a été la première chose. On est un concept premium. Ça, c'est très important à dire. On est premium, donc on accueille des gens qui ont l'habitude d'être dans des endroits un petit peu chics,
oui.
Avec des couleurs pas criardes, avec du parquet par terre. On est beaucoup dans des locaux commerciaux, avec des hauts plafonds. Donc il faut respecter ce code là d'aspect premium. Ce code d'aspect premium français n'est absolument pas le même en Chine ou même en Espagne qui est très proche de nous. En Espagne, ils sont vraiment sur des couleurs très vives. Ils ont beaucoup des murs chargés. Nous, on n'a pas du tout pu répercuter le modèle, par exemple, espagnol et pas non plus russe et pas non plus chinois et pas non plus mexicain. D'accord. Donc ça a été le travail d'aspect extérieur et de design et d'aménagement de l'intérieur et de la vitrine qui ont dû être complètement adaptés au modèle français.
D'accord.
Voilà.
Et même entre les régions et Paris, est-ce qu'il y a une différence aussi dans ce...
On reste sur un guide de marque qui va être similaire en région ou à Paris.
D'accord. Ouais. Donc justement, par rapport à l'implantation aujourd'hui d'Hélène de Rhône en France, vous avez donc une agence pilote à Paris.
Oui.
Et puis après, 4-5 franchisés.
Alors là, on a 6 franchisés aujourd'hui.
6, ouais.
Voilà, on a un est en cours d'ouverture puisque les travaux doivent être terminés ces jours-ci dans le 16e arrondissement à Paris. Et on a on vient de signer un contrat de franchise à Bordeaux, dans le centre de Bordeaux, au plein cœur du vieux Bordeaux qu'on aime.
Ouais.
Et là, les travaux sont en cours et l'ouverture est prévue en mars.
D'accord.
Voilà. Donc le recul sur la région n'est pas assez prononcé pour qu'on puisse en tirer des conclusions. On est arrivé à Nantes et à Lyon et en septembre, donc il y a 3 mois.
D'accord.
Donc aujourd'hui, on n'a pas le recul nécessaire vraiment pour analyser ce qui se passe. On va attendre une année pour voir, oui, pour pouvoir en parler vraiment de manière précise.
À chaque fois, c'est un franchisé différent ou vous avez aussi des masters franchisés?
Alors,
qui
non.
ont en France, qui ont pris plusieurs enseignes?
Alors non, pour l'instant, on a des franchisés qui sont donc en franchisé uniquement Hélène de Rhône et qui s'occupent uniquement de leur centre. Par contre, j'ai deux des franchisés qui ont clairement, depuis le début, affirmé le fait qu'ils voulaient ouvrir plusieurs franchises Hélène de Rhône dans leur région. Donc, ce seront des multi-franchisés, oui, Hélène de Rhône.
Mmh.
Voilà.
D'accord.
Mais on n'a pas d'autres masters franchisés en France.
Et donc, quand ils deviennent franchisés, ils sont eux-mêmes formateurs d'anglais ou est-ce qu'ils se forment aussi à cette méthode? Enfin, forcément, puisqu'ils ne connaissent pas forcément la méthode, mais est-ce qu'il faut qu'ils aient une expérience d'enseignement ou est-ce que ce n'est pas nécessaire?
Alors, plusieurs points qui sont abordés. Le premier, c'est que nos franchisés ont des profils différents, hein, évidemment, tous les uns des autres. Il y en a qui viennent, qui sont complètement anglophones, très à l'aise avec la langue, bilingue.
D'accord.
Et qui ont envie d'enseigner eux-mêmes, en plus d'une équipe de professeurs qu'ils vont mettre en place, bien sûr. On a d'autres franchisés qui sont intéressés par le secteur de l'éducation, par l'aspect management, business, entrepreneuriat, mais qui veulent absolument pas enseigner. Ou au moins, pas de manière régulière, mais faire uniquement des remplacements. Donc, on a un mix des deux.
D'accord.
Voilà. Après, au niveau des formations, tous les franchisés doivent suivre la formation pédagogique de leur professeur.
Oui.
C'est une formation pédagogique qui dure au minimum 10 jours, au maximum 21 jours. Donc en première année, lors de l'ouverture d'une franchise, on va dire qu'on va se former à environ 10 jours. Ça va suffire pour couvrir les programmes de première année. Les franchisés ont le choix entre deux formations. Soit ils font la formation pédagogique en tant qu'observateur. Donc ça veut dire qu'ils sont présents pendant la formation, mais ils ne participent pas pleinement. Ils n'ont pas à préparer des présentations pour le lendemain. Ils n'ont pas de travail à faire à la maison, de devoir, entre guillemets.
D'accord.
Et ils peuvent s'absenter une heure pour un rendez-vous, pour gérer autre chose en parallèle. La deuxième possibilité pour les franchisés est de suivre et de participer pleinement à la formation pédagogique, ce qui implique donc des devoirs, ne pas pouvoir s'absenter pendant une heure de la formation. Et à ce moment-là, ils sont certifiés Hélène de Rhône, donc ils peuvent officiellement enseigner.
D'accord.
Ce que je leur conseille toujours, c'est de faire cette formation en tant que participant et pas en tant qu'observateur, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut passer à travers cette formation qui est assez intensive, qui est un petit peu une grande remise en question,
oui,
aussi humaine, psychologique. C'est très, enfin, c'est passionnant, c'est se rentrer à fond dans le projet, connaître la méthode. La troisième raison, c'est aussi créer une proximité avec son équipe de professeurs. On passe à travers, enfin, on a la même expérience de formation qu'eux. Donc, quand ils vont se plaindre ou qu'il va y avoir un conflit, on va être plus capable de le résoudre.
D'accord.
Et on a une proximité, une cohésion d'équipe avec les professeurs. Donc voilà, sont vraiment. Et puis il y a aussi la possibilité de pouvoir remplacer.
Oui.
Même s'il veut pas un franchisé, ne veut pas enseigner de manière régulière, il faut pouvoir remplacer. Pour pouvoir remplacer, il faut être certifié.
D'accord. Et donc les professeurs, justement, il faut tous qu'ils soient certifiés.
Ah oui.
Et donc vous, votre rôle aussi en tant que master franchisé, c'est aussi de recruter des professeurs et de les former pour dire. Après, vous aurez du travail dans les agences ou comment ça. Moi, je veux m'installer, par exemple, prenons l'exemple de Bordeaux. Donc, il vient d'ouvrir à Bordeaux. Il a pas forcément de formateur à Bordeaux. Donc, il va recruter aussi des gens qui seraient intéressés pour se former à cette méthode pour pouvoir devenir formateur.
Tout à fait. Alors, on va assister les franchisés dans le recrutement. Des profils, on a une fiche de recrutement qui est un processus de recrutement qui est très clair et très carré, qui comprend peut-être plus d'étapes que d'autres franchises en formation, puisque notre qualité pédagogique est très élevée et que nous avons une grande attention pour garder nos professeurs d'une année à l'autre et pour pouvoir offrir des vraies opportunités de carrière à nos professeurs. Donc on n'a pas de turnover quasiment dans nos professeurs. Les professeurs qui nous quittent pour une bonne raison, une formation, ils ont eu un concours d'instituteur, ils ont envie de partir en crèche pour par exemple les formateurs, les professeurs des plus jeunes, ils ont envie de se lancer dans un autre projet entrepreneurial. Donc la formation, le recrutement est très spécial dans notre réseau. On assiste les franchisés dans leur recrutement. Ensuite, pour la formation, on va dire que le master franchisé s'occupe de l'organisation de la formation.
D'accord.
Moi-même, master franchisé France, je n'ai aucune légitimité à mener une formation et à certifier un professeur, un candidat. Ça, c'est assuré, cette formation est assurée par le siège. Et d'accord. C'est la seule solution d'ailleurs pour le siège de pouvoir garder une qualité pédagogique identique dans tous les pays du monde.
Oui, oui.
Donc l'organisation est la suivante. Hélène Doron elle-même forme des formateurs. Il y en a une trentaine dans le monde qui sont répartis selon les régions mondiales. Donc, il y en a au Mexique, il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Extrême-Orient, il y en a en Turquie, en Russie, etc., en Europe. Et ces formateurs donc, vont voyager dans les différents centres à la demande des masters franchisés et vont former localement.
D'accord.
Ces formateurs dépendent uniquement du siège.
Un
master franchisé ou un franchisé n'a aucune influence sur la décision de certification ou pas.
D'accord.
Alors c'est dur, ça peut être dur parce que c'est pas très flexible et du coup on se retrouve parfois confronté à un formateur qui ne certifie pas quelqu'un alors qu'on a besoin urgent d'un prof. Mais c'est la seule manière de garder une qualité pédagogique optimum. Donc on s'y plie et finalement on en est fier.
D'accord. Et le profil de ces formateurs, c'est pour ça qu'on dit que c'est un réseau très féminin. C'est les formateurs qui sont essentiellement féminins.
On a deux hommes dans les formateurs. C'est vrai que sur 30, on n'a que deux hommes. On est dans un secteur très féminin. L'éducation, c'est un secteur féminin. On a des masters franchisés hommes. On a des franchisés hommes. Mais 10%.
D'accord.
Sur le réseau mondial. On a 1100 centres dans le monde, donc 1100 en gros franchisés. On a 10% d'hommes.
D'accord. Voilà. Et ça, c'est lié au secteur ou c'est lié à une volonté aussi ou cette proximité à l'enfant
pas
ou
du
c'est
tout.
Non c'est
absolument pas c'est la sélection naturelle du secteur.
D'accord.
Uniquement on n'a jamais refusé un franchisé ou que ce soit parce que c'était un homme, absolument pas.
D'accord.
Au siège aussi on peut souligner, donc on a une centaine de personnes au siège Hélène Doron international, on a des hommes. Mais on a plus de femmes. Et
oui,
le haut
oui.
management Hélène Doron est purement féminin. Et on en est très fiers parce que c'est rare dans des groupes de cette taille-là d'avoir un haut management 100% constitué de femmes.
Oui, c'est étonnant. Peut-être effectivement le secteur et puis le fait que ça soit aussi créé par une femme et qu'elle est aussi. C'est peut-être un secteur de reconversion aussi, peut-être fait pour les femmes assez.
Oui. Ah, c'est un secteur de reconversion. Ah oui, nos franchisés, alors c'est pas non plus, on a une tranche d'âge qu'on aime bien annoncer, voilà, les franchisés, on se dit entre 30 et 55 ans,
oui.
Voilà, c'est assez large. Mais le jour où une franchisée extraordinaire sort de ses études à tout ce qu'il faut pour entreprendre, on ne va pas lui bloquer la route
bien
parce
sûr.
Qu'elle a 25 ans.
Bien
on
sûr.
A une franchise, on a des franchisés qui sont rentrés à 20 ans dans des réseaux qui sont extraordinaires et qui ont des succès vraiment superbes qui sont aujourd'hui, qui ont 35 ans, qui sont rentrés il y a 15 ans. Donc on peut pas se cantonner à l'âge. C'est
oui,
très réducteur.
Oui,
c'est
oui.
trop réducteur.
Oui, oui.
Après oui, c'est de la principalement de la reconversion. Il y a un moment dans sa vie, généralement on est maman. Bon voilà, c'est principalement aussi des mamans puisqu'on est intéressé par l'éducation, donc on a des enfants. Et il y a un moment dans notre vie, on en a marre du métro, boulot, dodo, on voit plus nos enfants grandir, on n'a plus de sens à ce qu'on, dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, on sait plus pourquoi, on va traiter des chiffres, de la finance, du marketing pour un gros groupe impersonnel, et on se dit, mais finalement, j'ai envie de créer ma propre aventure, d'être maître de ma vie professionnelle, qu'est-ce que je peux faire? J'adore les enfants, j'ai des enfants, j'ai envie d'évoluer dans le monde de l'enfance, et aussi dans le monde, dans un monde aussi de grande qualité, hein, de très qualitatif. Qu'est-ce que je peux faire? Et ben voilà, on est là.
D'accord. Donc c'est des cours qui vont de 3 mois
oui.
à 18 ans. Quand
oui.
on ouvre une première agence, on
oui.
démarre tout de suite tous les âges comme ça, parce que c'est la
oui.
même pédagogie quel que soit l'âge.
Oui, c'est la même pédagogie, mais évidemment les outils pédagogiques
oui.
sont bien sûr adaptés. Bien entendu, mais oui, on ouvre. Alors, on a en tout 20 années de programme actuellement. Il y a de la R&D permanente, donc l'équipe pédagogique est sans cesse en train de développer de nouveaux programmes pour remplir les petits trous. Un exemple, on s'aperçoit au niveau mondial, il y a 2 ans, il y avait une grande demande pour un programme débutant de 4e, 3e, parce qu'il y a des enfants de 4e, 3e et ben, qui savent pas conjuguer le verbe être en anglais,
oui.
donc ils sont débutants. Et comment on fait? On va pas les mettre sur un programme de débutants de 8 ans. Ils sont quand même mûrs. Donc, il faut un programme adapté à cette tranche d'âge-là qui débute. Et l'équipe pédagogique se met sur le projet et sort un nouveau programme.
D'accord.
Ensuite, on a des enfants, un autre exemple, des enfants qui sont chez nous depuis 4-5 ans. Ils ont un niveau d'anglais qui est quand même très bon. Ils sont trop jeunes pour aller sur de la grammaire, sur de la BD, sur des chansons pop-rock. Ils sont au CE1, CE2. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants? Ils ont un anglais très avancé. Hop, on crée un nouveau programme basé sur un oral très avancé pour des enfants qui ont 4-5 ans de cours Hélène Doron derrière eux.
D'accord.
Voilà, donc il y a de la R&D permanente qui est faite. Tout notre matériel est développé en interne. Et j'ai oublié du coup le sens de la question.
Non, mais c'était
je suis partie,
c'était ça, c'était de pouvoir dire qu'effectivement c'était la même méthode qui s'adaptait
oui.
en fait à différents âges et que vous pouviez donc offrir tout de suite tous les âges en fait.
On peut tout de suite offrir tous les âges, mais sur les 20 ans, voilà. J'ai retrouvé le fil de ma pensée. Sur les 20 ans de programme qu'on a pour les enfants, on va démarrer avec 8 ans de programme parce qu'on sait qu'on n'aura pas par exemple le dernier niveau qui est le plus élevé, même nos terminales n'y sont pas à ce niveau-là. Ensuite, il y a des programmes uniquement de deuxième année ou troisième année dans lesquels on peut pas prendre des enfants qui démarrent avec nous. Donc finalement, on va commencer
oui.
avec 8 programmes différents en année 1.
D'accord.
Et puis on va au fur et à mesure en proposer de plus en plus.
D'accord. Et c'est des groupes de combien d'enfants en général?
Alors 6 maximum pour les moins de 3 ans et 8 maximum pour les plus de 3 ans.
D'accord.
Voilà. Et pour les moins de 3 ans, c'est avec évidemment un parent présent, parce que le but n'est pas de faire de la garderie ou de la crèche, mais bien un vrai cours d'anglais construit, on va dire même plus un atelier d'éveil, de développement de l'enfant en anglais.
D'accord.
Et donc, il faut un parent qui gère, déjà qui s'implique,
oui.
qui gère tout ce qui est discipline, pour que nous, on puisse donner notre maximum en termes de pédagogie, de psychomotricité, d'exercice, de pre-reading, etc.
D'accord. Vous êtes militante de l'éducation positive. D'abord, ce militantisme, c'est à quel niveau? Est-ce que vous êtes dans une association en particulier, ou est-ce que c'est parce que c'est un domaine qui vous intéresse et sur lequel vous avez envie de vous investir?
C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et dans lequel je m'investis tous les jours auprès de nos élèves, et notamment des élèves de mon centre à moi, Pilote, qui est dans le 6e. L'éducation positive chez le jeune enfant est très facile à mettre en œuvre. Tous les parents, sans s'en rendre compte, la mettent en œuvre. Un enfant qui va faire ses premiers sourires, voilà, va provoquer un enthousiasme extraordinaire. Le parent va s'adresser à son enfant, il a souri, c'est extraordinaire, etc. Pareil pour le premier pas, pareil pour le premier mot, pareil pour au début de la lecture, là, en l'entrée à l'école. On est toujours très positif. Le problème arrive quand on rentre dans l'adolescence. Et là, c'est le challenge. Parce qu'on peut être adepte de l'éducation positive, avoir lu des centaines de livres, assisté à des conférences et fait soi-même des formations. On est confronté à quelque chose de très difficile, quand on a des ados. Bon, moi, j'ai deux ados à la maison. C'est pas facile tous les jours. J'ai les parents qui viennent me voir pour des ados, c'est généralement parce que les ados ont des difficultés à l'école, en anglais en tout cas.
Oui.
Et le nombre de parents absolument adorables, qui s'occupent énormément de leurs enfants, qui sont auprès d'eux, qui ont un discours éducation positive quand l'enfant n'est pas là, viennent avec leur enfant, s'assient en face de moi et me disent « on vient vous voir parce que mon fils est nul ».
Oui.
Et alors là, on se dit « votre fils est nul ». Alors, on se tourne tout de suite vers le fils qui est là en question, en se disant « bah voilà, je suis nul ». Déjà, c'est pas nul. Ensuite, on parle de l'anglais uniquement. Donc, nous, on est là pour dire à cet ado, non, t'es pas nul. Il y a plein de trucs que tu sais. T'es juste pas sensible à la méthode traditionnelle d'enseignement des langues.
D'accord.
Vous êtes 30 en classe. Tu peux pas progresser vraiment optimum en anglais alors que vous êtes 30 en classe. Tu as besoin de plus d'attention. Tu as beaucoup de choses dans ta tête que tu n'arrives pas à verbaliser parce que on te dit pas que tu es bon et que tu es capable de prendre la parole, etc. Donc l'ado, il se ferme sur lui-même, il a des mauvaises notes, il déteste l'anglais, il devient nul. Voilà. Donc on va lui dire non, tu es pas nul. T'as déjà beaucoup de choses en tête. Nous, on va t'aider à les mettre en place dans ta tête, à structurer ton esprit en anglais, à te montrer que tu peux être super fort. Et voilà. Et alors, c'est vrai que le parent se dit « zut, j'aurais pas dû dire qu'il est nul », culpabilise un peu. Mais le parent n'est pas méchant quand il dit ça. Et c'est vrai que c'est un discours qui est très commun. Donc, l'éducation positive chez le jeune enfant, facile. Tout le monde le fait. Chez l'ado, c'est très difficile. Et c'est là, j'ai envie de dire, où nous, on a encore plus... d'impact dans la vie de nos indos.
D'accord. Est-ce que vous allez jusqu'à préparer les ados à passer des TOEFL ou des niveaux d'anglais ou qu'ils préparent aussi ce genre d'examen avec vous? Ou c'est vous êtes juste, j'améliore le niveau et après l'enfant va passer ses niveaux d'anglais de son côté?
Alors, nos programmes à partir du CE1 correspondent tous à des niveaux du cadre commun européen d'apprentissage des langues, qu'on appelle entre guillemets niveau Cambridge. Donc, on va du niveau Starters au niveau B2. On fait donc First Certificate. On fait passer on propose à nos élèves, en tout cas, de passer des examens Cambridge.
D'accord.
Tous nos centres, au niveau français et européen d'ailleurs, sont des centres de préparation aux examens Cambridge, de manière officielle.
D'accord.
On a le logo, on peut l'utiliser, on est en contact avec Cambridge. Donc, au printemps, on propose à nos familles d'enfants de CM1 et plus âgés la possibilité d'inscrire leurs enfants à un examen Cambridge.
D'accord.
Donc, ils s'inscrivent, ils ne s'inscrivent pas, ça a un coût. Nous, on s'occupe de l'administratif, on les inscrit, on leur propose les horaires qu'il faut, etc. Et ensuite, on va uniquement, comme nos programmes correspondent à ces niveaux-là, on n'a pas à faire de cours spécifiques.
Oui, d'accord.
La seule chose qu'on va mettre en place sont des examens blancs pour habituer les enfants au format de l'examen.
Oui.
Donc, on va proposer 2 ou 3 heures de cours en plus de leur cours quotidien, de leur cours hebdomadaire, pardon, dans les 2-3 semaines précédant l'examen pour qu'ils s'habituent au modèle de l'examen. C'est tout. Nos programmes correspondent, donc ils ont le vocabulaire qu'il faut, ils ont le niveau de grammaire qu'il faut, ils ont le niveau oral qu'il faut. On n'est absolument pas inquiet là-dessus, mais il faut les préparer au modèle.
D'accord, très bien. Par rapport à vos franchisés, c'est eux qui viennent. Tout à l'heure, vous m'avez dit que c'était eux qui étaient venus vous voir. Est-ce que vous avez une démarche aussi de recrutement spécifique? Est-ce que vous êtes présente sur les plateformes internet? Et comment ça se passe un petit peu?
Oui, alors c'est vrai, quand j'ai démarré, c'était un petit peu à tâtons. Parce qu'il existe une offre énorme pour promouvoir les réseaux de franchise, dont certaines qui sont extrêmement chères. Donc quand on démarre, on est un petit peu à tâtons, on ne sait pas s'il faut aller vers plein de choses différentes ou se consacrer sur un média particulier. Voilà. Alors j'ai testé plusieurs modèles. D'abord, j'ai voulu qu'on parle de nous.
Oui.
Et pour qu'on parle de nous, eh bien il fallait contacter de la presse. Donc oui. Il fallait une agence presse. Et je me suis rapprochée d'une agence qui était spécialisée dans le monde de l'enfance, avec qui j'ai travaillé sur le lancement de mon centre pilote.
D'accord.
Et l'inauguration, et les interviews, et on s'est rendu dans plusieurs grands médias français, presse écrite française, pour avoir des interviews, des photos, des reportages. Donc ça, c'était, on était vraiment sur, on parle de nous, mais grand public.
D'accord.
Il faut qu'on se fasse connaître déjà. Hélène de Renat English arrive en France, qu'est-ce que c'est ? Une fois que le centre a été lancé, qu'on a commencé à avoir des beaux, un beau book, je me suis dit, là, il faut qu'on parle de nous, mais dans la presse franchise, d'une manière business, plus business. Comment ? Alors là, j'ai contacté une société de la Fédération française de la franchise qui ne fait que ça, de la communication des relations presse spécifiques pour les réseaux de franchise. Et j'ai eu des interviews, on a eu des reportages, on a eu même des petits reportages filmés sur nous pour faire parler de nous dans plein de médias de franchise différents. J'en suis très contente. Donc, je continue à travailler de cette manière-là.
D'accord.
Et j'ai également, après avoir testé un court abonnement auprès d'une plateforme de la franchise, je ne sais pas si j'ai le droit de la nommer.
Si,
voilà. Donc, j'ai testé 6 mois la plateforme Toute la franchise.
Oui.
J'ai été assez ravie des résultats et du professionnalisme de cette plateforme. Et donc, j'ai décidé de faire un partenariat à plus long terme avec eux. Et donc, maintenant, j'ai un abonnement mensuel qui marche très bien. Et c'est c'est par cette plateforme-là que, on va dire, 80% des candidats nous contactent.
D'accord.
Voilà. C'est assez efficace.
Et c'est vous qui gérez toutes les candidatures ?
Alors, c'est moi qui gère toutes les candidatures. Oui, 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 pour l'instant.
Parce que ça fait du volume, en général.
Ça fait du volume, et dans l'éducation, c'est très particulier, ça en fait pas tant que ça.
Ah, d'accord.
On n'est pas dans la restauration, on n'est pas dans des points de vente d'habits. C'est très particulier, hein. Il faut être passionné par l'éducation. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde.
Oui.
Donc les gens qui nous contactent généralement savent exactement ce qu'ils veulent.
D'accord.
On a très peu de pertes par rapport entre le candidat qui nous contacte et le vrai intérêt dans la méthode.
D'accord.
Contrairement à ce qui se fait dans la restauration, dans les habits, dans les objets du quotidien.
D'accord. Très
donc
bien.
Voilà. Et c'est très important pour moi en tout cas de prendre soin de chaque candidat. On est vraiment au démarrage.
Oui.
Donc j'apprends à être master franchisé et j'ai besoin de cette expérience. Donc, je prends beaucoup de plaisir à discuter avec les différents candidats.
Alors, qu'est-ce qu'on apprend quand on passe justement de test d'une agence à devenir franchiseur, quelque part ? Pour vous, quel a été pour l'instant l'apprentissage le plus important ?
Alors, au point où on en est aujourd'hui, avec l'ouverture de plusieurs centres en cours, ça a été qu'est-ce qu'on offre aux franchisés quand ils démarrent ? Concrètement, d'accord, on va leur offrir une exclusivité territoriale. Ça, c'est les frais d'entrée de franchise, évidemment. Ils achètent une exclusivité. Mais après, il va falloir mettre en place un pack.
Oui.
Un pack de démarrage. Qu'est-ce qu'on va mettre pour que les franchisés tiennent le coup pendant une année?
Oui.
Dedans. Qui n'aient pas à se soucier des relations presse, de leur site internet, des flyers, de commandes du premier matériel, du matériel des professeurs, voilà, tout ça. De quoi ils ont besoin? Et dans ce pack de démarrage, il y a un pack documents. Et c'est pareil, quel document va les aider? Donc, il existe des milliers de documents Hélène de Renat English au niveau mondial. On n'en utilise qu'une très petite partie. Et les documents d'organisation pure d'un centre, ce dont on a besoin tout de suite, ils n'existent pas.
D'accord.
Ils n'existaient pas. Donc, il a fallu les faire.
D'accord.
Et ça, c'est l'expérience du pilote.
Oui.
Voilà, donc l'organisation, qu'est-ce qu'il faut commander, tant et quand, comment est-ce qu'on répond à un mail ?
Oui.
Quand vous avez signé votre contrat de franchise, on vous met en place l'adresse email, votre site internet, etc. Et là, vous commencez à recevoir des mails. Qu'est-ce que vous dites aux parents ? Comment vous allez vous adresser aux parents? Quel doit être votre discours? Sur quoi est-ce qu'il faut insister? Qu'est-ce qu'il faut mettre de côté? Tout ça, c'est...
Donc, l'approche commerciale aussi.
Voilà, je n'avais pas quand j'ai démarré ici. Ah, j'avais j'avais des guides, des procédures superbes. Mais concrètement, ce qu'il faut dire au téléphone, je n'avais pas.
D'accord. Et donc ça, vous travaillez aussi avec les franchisés, j'imagine. C'est eux aussi vous guident un peu en disant, tiens, là, je sais pas comment faire.
Complètement. C'est-à-dire que mon pack document qu'on remet, En ce moment, tous les 15 jours, je rajoute un document dedans en me disant, oh là là, ça, il faut absolument qu'ils aient ça. Il faut qu'ils aient cette procédure parce que ça va simplifier la vie de tout le monde. Il n'y a pas, il va pas y avoir besoin d'organiser une réunion autour de sujets. Ce sujet va être clair.
D'accord.
On pense aussi, donc, les franchisés passent à travers une formation de deux jours qui vient de passer à trois jours, donc, au siège en Israël. C'est une formation business, comment gérer un centre. Et puis, qui permet aussi de connaître tous les aspects du métier et toutes les personnes en charge, donc l'équipe pédagogique, l'équipe marketing, l'équipe finance, le stock, où est-ce que sont imprimés nos documents, où est-ce qu'on enregistre, où est notre studio de radio, etc. Donc ça, c'est très important que les franchisés aient un business training de démarrage à la source même de la méthode, donc c'est-à-dire en Israël, à notre siège.
D'accord, très bien.
Oui.
Aujourd'hui, l'objectif pour 2020, il est de combien d'ouvertures? Vous êtes quelle ambition pour 2020?
Alors aujourd'hui, on est 7 centres, 7 centres, donc un centre en propre et 6 franchises. L'objectif, c'est d'atteindre 10 centres en 2020. Et
d'accord.
C'est mon objectif depuis 2016, que j'ai dit à plusieurs reprises, qui est écrit un petit peu partout. Et c'est 10 centres en 2020. Donc il m'en reste 3
à trouver.
Voilà, 3 à trouver d'ici la fin de l'année. J'ai de nombreuses discussions actuellement avec des candidats épatants de diverses villes de France et de Paris même. Et voilà, donc on verra. On est toujours, tant que c'est pas signé, on
oui.
est toujours un.
On pas, reste toujours très prudent.
On reste très prudent.
Il y a une taille de ville, il y a une taille de ville sur laquelle il y a une possibilité de s'installer par rapport à une population, par rapport à, ou non, où on peut.
Quel est on pensait que oui, puis en fait non.
D'accord.
On pensait que oui, qu'on allait viser les plus grosses villes, que les plus grosses villes allaient être les meilleurs démarrages.
Oui.
Bon, on peut pas parler de réussite pour l'instant, on est en démarrage, donc on parle de meilleurs démarrages. On est à Lyon, on est à Nantes, on est à Paris, ce sont des grosses villes. Et puis on est à Enghien-les-Bains,
oui.
18 000 habitants, petite ville du Val d'Oise, assez cossue avec un casino, un lac, des bons restaurants. Et ben le démarrage, c'est là qu'il est le meilleur.
D'accord.
18 000 habitants. Sauf qu'évidemment, l'exclusivité de 100 000 habitants donne à la franchisée actuelle donc l'exclusivité sur
tout le
grande partie
oui.
du Val d'Oise.
Oui, mais il y a Aubonne, il y a d'autres
voilà,
villes.
Voilà, Aubonne, Hermont, Montmorency.
Oui.
Donc, elle a une exclusivité, mais elle est centrée à Enghien parce que c'est le centre attractif. Et on se rend compte que c'est là que le démarrage est le plus gros. Donc, j'ai envie de dire, c'est le démarrage va être le meilleur dans un univers vierge
oui.
de concurrents.
D'accord.
Enghien, il y a zéro concurrent.
Oui.
Il n'y a pas de concurrence à Enghien, ni à Montmorency, ni à côté.
Oui.
Donc, les gens attendaient ça. Et puis, c'est une population, il y a beaucoup d'enfants. Et les Enghiénois attendaient ça avec impatience.
D'accord. Donc, ça donne encore d'autres potentialités
voilà.
d'installation ailleurs.
Oui, tout à fait.
Très bien. J'ai l'habitude, en fait, de terminer cet entretien par une question un peu plus personnelle. Sur la gestion du doute quand on est en démarrage d'une activité ou même à tout moment d'ailleurs de la gestion d'une activité et on peut avoir effectivement des moments de doute. Est-ce que vous avez un rituel, une personne clé, une manière de gérer ces doutes qui vous est très personnelle?
Oui, une habitude en parler déjà des doutes, j'en parle beaucoup. De toute manière, je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec mon mari et même mes enfants qui sont mes premiers soutiens et testeurs.
Oui.
Donc, on doute. Alors, quand on doute, soit on prend du recul et on se change les idées.
Oui.
Et ça, c'est ce qu'on fait en famille. Soit on se plonge dans le travail et dans les tâches vraiment quotidiennes de tous les jours. Hein, des choses simples où il n'y a pas trop besoin de réfléchir, qui sont automatiques, qui sont généralement pas très agréables, mais en tout cas qui permettent de pas réfléchir. Et puis le doute, il part toujours. Hein. Le doute arrive très rapidement et repart très rapidement. Donc voilà. Après, évidemment, tout entrepreneur doute un moment ou un autre, et plusieurs fois même.
Oui.
par mois, par jour.
Tout voilà. à fait. Ben, merci beaucoup, Elisabeth, pour cet entretien.
Avec
et
plaisir.
Et puis, beau développement en 2020 pour Hélène Doron English.
Merci beaucoup, Claire.
Vous, auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la Franchise sur Instagram et LinkedIn et de vous abonner sur la newsletter pour rester informé de nos actualités en allant sur le site lesvoixdelafranchise.fr. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts. Enfin, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions pour que les Voix de la Franchise grandissent avec vous et pour vous. À très vite.